Donc bonjour à tous. Je vais exposer quelques idées qui sont dans ce livre, « Ce que nature sait, la révolution combinatoire de la biologie et ses dangers » au PUF. Je prolongerai par quelques approfondissements historiques qui ne sont pas dans le livre, mais qui, à mon avis, appuient et renforcent les thèses du livre. Alors, lorsqu'on fabrique un OGM, un animal, une plante ou une bactérie, et qu'on le lâche dans la campagne, s'agit-il du même empirisme que celui dont parlent les physiciens? Ça, c'est une des questions qui était à l'origine de mon livre. Et vous voyez que ça touche à la notion de providence. Je ne vais pas en parler aujourd'hui. Dans ce livre, j'aborde la nature avec des arguments différents. D'abord, une analyse approfondie de la combinatoire et deuxièmement, le savoir de la nature. Je prétends que la nature a un certain savoir et même un savoir que nous ne posséderons jamais. Alors évidemment, ça fait réagir les biologistes qui crient à l'anthropomorphisme. La nature n'est pas un être pensant. Et quand je dis un savoir que nous ne posséderons jamais, qui répondent « mais ça n'est pas scientifique de donner des limites à la science ». Bon, on va voir que ces critiques ne sont pas fondées. Alors, commençons par le savoir de la nature. Il est très important de prendre conscience des ordres de grandeur. On dit que dans l'univers observable avec les plus grands télescopes, il y a 10 puissance 80 atomes. Ça veut dire que ça s'écrit avec 1 et 80 zéros. L'ADN, bon, alors l'ADN, c'est cette molécule en double brin qu'on peut considérer comme un mot écrit avec 4 lettres, qui sont les nucléotides, l'adénine, thymine, cytosine, guanine, et le premier chromosome humain fait 320 millions de paires de bases. Et l'ensemble de l'ADN humain, 3 milliards de paires de bases. Alors nous allons considérer, premièrement, je vais appeler N1, le nombre des OGM que l'humanité fabriquera dans l'avenir, je ne précise pas. N2, le nombre des ADN que la nature a essayé depuis 3 ou 4 milliards d'années, depuis la soupe primitive. Et N3, le nombre des ADN possibles. Alors, ce nombre des ADN possibles est absolument vertigineux. Pour l'écrire, il faudrait non pas 1 et 80 zéros, c'est-à-dire deux lignes de zéros, mais il faudrait 1000 livres de 400 pages avec des zéros. Visiter cet espace est absolument exclu à quelque échelle de temps que ce soit. Alors, N2, le nombre d'ADN que la nature a essayé depuis la soupe primitive, N2, est microscopique en comparaison. Microscopique. Mais même plus petit que la taille d'un atome par rapport à toute la sphère terrestre en comparaison. Quant à N1, le nombre des ADN qui seront faits dans quelques milliers d'années avec nos nombreux laboratoires, même dans le temps de la durée de vie des déchets nucléaires, quelques centaines de milliers d'années, c'est microscopique à côté de ce que la nature a essayé. Alors, ces ordres de grandeur, ça montre une chose d'abord. La singularité tout à fait particulière de l'homme dans l'évolution est en fait une singularité de toute la nature dans son ensemble. C'était Jacques Monod qui faisait cette remarque, n'est-ce pas, la singularité de l'homme dans la biosphère. Mais en fait, c'est une singularité de toute la nature dans son ensemble. La nature qui, au cours de l'évolution, a essayé beaucoup avec des perfectionnements lents et puis des effondrements brusques, de sorte que les êtres vivants dans leur ensemble apparaissent comme une zone protégée par les expériences passées. Il y a là un savoir, une sorte d'apprentissage auquel nous devons accorder une forme de respect. Quant au reste, ce que la nature n'a jamais essayé, c'est tellement gigantesque que jamais on ne pourra visiter tout cet espace. En revanche, c'est très facile de piquer un point ou un autre dans cet espace. Et là, on voit très bien que les risques de la biologie de synthèse sont évidemment des risques qui sont relatifs aux relations avec le contexte, avec l'existant. Parce que quand on prend un point qui n'a jamais été visité par la nature, pour parler simplement, je dirais que Dieu lui-même ne sait pas ce que ça fait. Alors, venons-en maintenant au deuxième point, l'analyse approfondie de la combinatoire. J'aborde ça d'une façon assez différente de ce qui est fait d'habitude, et je fais intervenir les mathématiques, mais non pas les mathématiques pour modéliser la nature, et avec des modèles de plus en plus précis. Non, les mathématiques comme outil de compréhension. Je construis un dictionnaire. À une molécule, une protéine, disons, ou un acide aminé, un ARN, une molécule, j'associe un énoncé en mathématiques. Donc c'est une correspondance, je mets en relation une correspondance entre des suites finies de signes. Une molécule, c'est une suite finie de signes, et un énoncé en mathématiques, c'est aussi une suite finie de signes. Donc c'est une correspondance entre des suites finies de signes. Et à une molécule qui a été synthétisée par la nature ou en laboratoire, je fais correspondre un énoncé démontré. Alors comme mathématique, on va prendre l'arithmétique, qui est la théorie la plus basique en mathématiques. Et donc, à une molécule synthétisée, je fais correspondre un énoncé démontré à partir des axiomes, c'est-à-dire ce qu'on appelle un théorème. Alors ça, cette correspondance, elle est très féconde parce que du côté de l'arithmétique, des mathématiques ou de l'arithmétique, on sait beaucoup de choses. Du côté de l'arithmétique, on sait que, depuis presque un siècle, l'arithmétique présente une phénoménologie de la combinatoire qui n'est présente qu'à partir d'un certain niveau de complexité. C'est le niveau de complexité qui dépasse les algorithmes. Et plus récemment, on a montré que ce niveau est largement atteint par les systèmes vivants. J'y reviendrai. D'où des phénomènes d'incomplétude et d'indécidabilité du côté de la biologie de synthèse. En particulier, ce qu'on appelle le backward problem, le rétro-problème, si vous voulez, qui consiste, une protéine étant décrite, étant dessinée, comment la synthétiser? Ce problème dépasse ce que peuvent faire les algorithmes. Alors d'un côté du dictionnaire, du côté de la nature, évidemment, ça avance, parce que la nature, avec ses mutations, bon, ça bouge. Mais alors du côté de l'arithmétique, elle est ce qu'elle est? Non, elle avance aussi. C'est les mathématiciens qui la font avancer, n'est-ce pas? C'est quand les mathématiciens synthétisent un théorème, eh bien, l'arithmétique avance. Donc, on voit que... Et alors, ce phénomène-là avait été vu déjà par des chimistes il y a déjà un certain temps, et en particulier Roald Hoffmann, quelque temps après son prix Nobel, a écrit un article très intéressant dans lequel il montre que le cubane, qui est une molécule en forme de cube, avec un carbone et un hydrogène à chaque sommet, le cubane nécessite pour sa synthèse de passer par plusieurs corps beaucoup plus compliqués que le cubane. Alors ça, c'est très intéressant et très important, et j'y reviendrai dans la suite. Alors du côté de notre dictionnaire, Évidemment, ça avance aussi, c'est les mathématiciens qui font avancer les choses, et vous remarquerez qu'ils travaillent, maintenant on va utiliser ce dictionnaire, ils travaillent sur le phénotype, c'est-à-dire sur le sens. Ils ne travaillent pas sur la combinatoire logique des signes, les mathématiciens. Comme la nature, elle travaille aussi sur le phénotype, c'est-à-dire les fonctions des êtres vivants. Alors, une petite remarque importante au point de vue de l'histoire des idées. Le philosophe Henri Bergson, on peut dire, avait presque raison dans son fameux ouvrage « L'évolution créatrice », sauf qu'il n'a pas placé la limite, le seuil important au bon endroit. N'est-ce pas ? Il a rangé toute la science du côté de ce qu'il appelle le mécanistique et la nature du côté créatif. Il fallait en fait mettre la césure au niveau de ce qui relève des algorithmes et ce qui dépasse les algorithmes. Du coup, la science se trouve, en tout cas les mathématiques, se trouvent du côté créatif et non pas du côté mécanistique. Alors, à propos de la nature, je voudrais insister sur un point important. Mais, ah oui, auparavant, je cite simplement quelques critiques que je fais au réductionnisme à partir des deux idées que j'ai défendues, le savoir de la nature et puis l'analyse approfondie de la combinatoire. Premièrement, le rôle du hasard. Le hasard, en fait, est largement utilisé dans la démarche scientifique classique comme un cache au-dessus de l'ignorance. On dissimule l'ignorance par le hasard, et ça, il y a beaucoup à dire, et c'est très important, très intéressant. Je m'appuierai sur le hasard, je m'appuie, et ça me fait plaisir de le citer parce qu'il est très peu cité, sur les travaux remarquables de Georges Matron. Georges Matron, qui a été un des fondateurs du Centre de géostatistique à l'École des mines à Fontainebleau, qui a écrit un essai tout à fait remarquable où il parle de biologie, et en particulier sur la notion de hasard en biologie. Ensuite, je rejoins les critiques de Giuseppe Longo et Maël Monteville sur la notion d'état d'un système, qui est une notion pleine de sous-entendus et d'ambiguïté. Donc je montre que la combinatoire installe une nouvelle relation à l'ignorer. À propos de la nature, je voudrais juste insister sur l'importance de la notion d'effacement. Le présent ne nous dit pas tout le passé. Cette expérience de la nature fondée sur ces très nombreuses tentatives depuis des milliards d'années, qui ont été des réussites transitoires, des perfectionnements, des complexifications, jalonnées d'échecs, petits et grands, tout ça ne débouche pas aujourd'hui sur un résultat cumulatif. Non seulement des espèces ont disparu, mais la plupart des étapes de cette expérimentation sont définitivement perdues, y compris au niveau moléculaire. Les bactéries fossiles ne nous livrent pas leurs ADN. Certes, la phylogénie génomique a été un progrès considérable par rapport à la paléontologie comparée. Elle utilise les ressemblances des génomes pour tirer plus d'informations. Certes, mais c'est une construction à partir de matériaux très lacunaires. Lorsque la nature a essayé des choses et qui ont échoué tout de suite, nous ne les avons plus. Elles sont perdues. C'est très important. Pourquoi ? Parce que une des caractéristiques des systèmes formels de la combinatoire qui sont au-dessus du niveau qui est accessible aux algorithmes, une de ces caractéristiques, c'est de pouvoir engendrer du simple à partir du complexe. Or, on voit que la nature, par ses nombreux trajets jalonnés de mutations par délétion et par effacement, dus à des phénomènes biotiques ou physiques, est l'exemple même d'un système capable de produire une certaine simplicité sans nous révéler toutes les étapes qui lui ont permis de l'obtenir. Et ça, c'est très important. Alors, ça, c'était des idées qui sont développées dans le livre. Maintenant, je voudrais approfondir en montrant la place des mathématiques dans cette réflexion sur l'éthique biologique. Alors, cette affaire est passionnante, mais un peu délicate. Un certain nombre de mathématiciens vont nous intéresser. Le plus simple est de suivre le déroulé historique du questionnement de la logique mathématique. Rapidement. On peut dire que jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, jusqu'à Euler, jusqu'à Leonhard Euler, on a pratiqué les mathématiques en se servant du sens des notions et on attachait la rigueur à ce sens. Mais au début du XIXe siècle, notamment avec Gauss et Cauchy, la rigueur devient plus syntaxique parce qu'on a besoin de plus de précision pour aborder la question des fonctions et un certain nombre de notions abstraites. Et ceci va perdurer dans le courant du XIXe siècle. Souvenons-nous des travaux très précis de Weierstrass, la théorie des fonctions de variables complexes, jusqu'aux équations aux dérivées partielles chères à Maxwell pour représenter le rayonnement électromagnétique. Et à la fin du XIXe siècle, la question se pose vraiment de clarifier les fondements de ces principes de rigueur en mathématiques. Alors ceci est abordé sur trois fronts. David Hilbert s'en prend à la géométrie. Dans ses Grundlagen der Geometrie, il étudie tous les axiomes envisageables, ou en tout cas la plupart, et il étudie leur dépendance mutuelle ou leur indépendance. Giuseppe Peano propose des axiomes pour l'arithmétique. Ces fameux 9 axiomes qui sont extrêmement simples et lumineux. Quant à Gottlob Frege, il propose un nouveau langage avec des variables d'individus et des quantificateurs pour tout, et il existe, avec lequel il compte écrire toutes les mathématiques à partir de la notion d'ensemble. Je passe sur le petit épisode qui est que, en 1902, Bertrand Russell se rend compte qu'il y a une contradiction dans le système de Frege. Frege en fut très affligé. Il fallait corriger les axiomes. Et c'est ce que firent Russell et Whitehead en 1910 dans leur Principia Mathematica. Les axiomes ont été corrigés. À partir de cette date, l'ensemble des mathématiques se présentait comme une théorie axiomatisée dans laquelle on pouvait écrire toute la géométrie, l'algèbre, l'analyse, jusqu'aux notions les plus abstraites des infinis de plus en plus grands de Georg Cantor. On voit très bien, dans l'œuvre de Frege, qu'en cette période, les mathématiciens logiciens se sentaient porteurs d'une grande responsabilité philosophique. Les mathématiques apparaissaient comme le socle de toute la science, et l'enjeu était ni plus ni moins celui de toute la rationalité. Le grand mathématicien David Hilbert annonce un programme de recherche qui prolonge sa déclaration au colloque de mathématiques de 1900 à Paris, où il avait présenté ses fameux 23 problèmes qui lui valurent une réputation mondiale. Ce programme consiste à établir que les mathématiques ainsi axiomatisées sont non contradictoires et que si une assertion est formulée en termes mathématiques, on peut savoir si elle est vraie ou fausse. Avec ses collaborateurs, Paul Bernays, William Ackermann, il décrit la méthode qu'il compte employer, très précautionneuse, pour ne pas employer de notions abstraites, ce qui serait supposé le problème résolu. Dans sa pénétrante introduction aux 23 problèmes, Hilbert explique ce qu'est un problème mathématique. Il défend la thèse que toute question mathématique a une solution. Il a cette célèbre affirmation, hautement significative de la place du réductionnisme dans l'esprit de cette époque. Voilà le problème, cherchons-en la solution. Tu peux la trouver par le pur raisonnement. Jamais, en effet, le mathématicien ne sera réduit à dire « ignorabimus ». nous ne savons pas, nous ne saurons jamais. Dans la période de la fin du XIXe siècle jusqu'à 1930, la recherche est intensément tournée vers la réduction des mathématiques à la syntaxe logique. Le programme de Hulbert est une stratégie pour y parvenir, mais le courant est beaucoup plus vaste. Et Hulbert assume la généralité de cette ambition. Il souligne clairement sa portée philosophique. L'enjeu est de savoir si une telle axiomatique est à l'abri des contradictions, si elle permet de décider la vérité de façon algorithmique. Entscheidungsproblem. Des avancées significatives sont faites par Hulbert et ses collaborateurs. Le jeune mathématicien Jacques Herbrand parvient à se servir de la pure syntaxe logique pour une approche sémantique du calcul des prédicats. Ces idées donnaient encore plus d'espoir à ce courant de recherche. Herbrand est un jeune prodige qui est rentré premier à l'école normale à 17 ans et premier à l'agrégation. Il a publié beaucoup d'articles, dont ce grand théorème qui porte son nom. Il est visiblement dans la perspective de démontrer le programme de Hulbert, car il est parvenu à démontrer la non-contradiction d'une partie de l'arithmétique. Le théorème de Herbrand est travaillé dans sa thèse. Herbrand ramène le problème de démontrer une formule quantifiée du calcul des prédicats à la validité d'une formule prise dans une suite dénombrable de formules sans quantificateur, ce qu'on appelle la disjonction de Herbrand. Nous savons, après les travaux de Gödel, que le programme de Hulbert est impossible. Et nous allons voir la portée de cette impossibilité. Mais écrite en avril 1929, la thèse de Herbrand n'en tient pas compte. Herbrand prend connaissance du résultat de Gödel quelques mois avant son accident. Il est en train de perfectionner sa preuve de cohérence d'une partie de l'arithmétique. L'article de Herbrand où celle-ci est publiée est signé Göttingen le 14 juillet 1931. Göttingen est l'institut de mathématiques où travaille et professeur David Hulbert. Donc 14 juillet 1931. L'accident eut lieu le 27 juillet 1931. En redescendant d'une course en montagne dans le massif de Loisan avec trois camarades, Jacques Herbrand s'assoit sur une pierre qui dévale et l'entraîne dans une chute mortelle. Alors après le théorème de Gödel, quelle valeur reste-t-il à ces travaux rigoureux et profonds ? Ils sont encore très utilisés en informatique. Mais surtout, ils sont un témoignage historique capital que les brillants esprits les plus compétents de l'époque imaginaient un monde de la connaissance rigoureuse très différent de celui qui s'impose à nous. Il montre que la rationalité pousse spontanément les hommes à lui accorder plus qu'elle n'est capable de faire. Ces travaux sont la preuve que la méthode scientifique, perfectionnée depuis, disons, l'époque de la Renaissance, féconde d'une moisson considérable jusqu'au début du XXe siècle, porte en elle la croyance à la réductibilité du monde à des systèmes algorithmiques. Mais nous savons maintenant que cette motivation fascinante ne peut être mené jusqu'au bout car il y a un donné qui nous vient de l'extérieur, y compris pour ce qui concerne les nombres entiers. Claude Chevalet, qui fut l'ami de Herbrand à l'école normale, évoque ses travaux après la guerre de la façon suivante. Herbrand aimait à insister sur ce point. La rigueur a deux faces complémentaires. Si elle est d'abord exigence d'un formalisme, respect des règles du jeu. Elle est aussi, dans le sens que lui donnait Léonard de Vinci, tentative de description toujours plus parfaite d'un donné. Et Chevalet ajoute, « Cette description d'un donné se fait en interprétant les axiomes par des concepts expérimentaux. » Ceci signifie que l'empirisme, Donc aussi la pratique des nombres entiers, la combinatoire réelle, apporte plus que ne peut faire la pure axiomatique. Il est important de bien comprendre que Hilbert assume complètement les conséquences philosophiques du programme qu'il préconise, c'est-à-dire le réductionnisme. L'absence de tout ignorabimus à cette époque est tout à fait naturelle. Au point d'ailleurs que c'est ce que croient encore aujourd'hui, un siècle après, beaucoup d'intellectuels. Et ce qui est plus surprenant aussi, beaucoup de scientifiques, en particulier de biologistes, maintenant que le vivant est rabâché comme strictement combinatoire. Comme écrit Jean-Yves Girard, le programme de Hilbert est donc réfuté en 1931. Mais par un phénomène psychologique bien compréhensible, le formalisme a gardé une grande partie de ses adeptes. En effet, on sait bien que les visions simplistes, réductrices du monde ont toujours un impact sans commune mesure avec leur succès réel. Lorsque j'étais étudiant, j'ai travaillé la logique mathématique. Et je dois avouer que j'ai été longtemps très convaincu par le programme de Hilbert. Les axiomes de Peano sont si simples et écrits avec un langage si clair qu'on ne voit pas ce qui ferait obstacle à une preuve de la propagation de la rigueur à tous les énoncés envisageables pour les démontrer ou les réfuter. Alors le théorème de Gödel, c'est quoi ? Cela peut se comprendre de la façon suivante. Être un théorème pour un énoncé, P, c'est une propriété d'existence. Ça veut dire, il existe un trajet déductif depuis les axiomes jusqu'à P. C'est une propriété d'existence, n'est-ce pas ? Et alors, les trajets en question peuvent être beaucoup plus compliqués que P lui-même. P, c'est une suite de signes. Et les trajets déductifs qu'il faut essayer, a priori, peuvent être beaucoup plus compliqués que P, à cause du fait que la logique est capable d'engendrer du simple à partir du complexe. Et pour l'arithmétique, la recherche de ces trajets déductifs dépasse ce que peuvent faire les algorithmes. C'est ça le théorème de Gödel. Et dans ce résultat, la notion d'algorithme est tout à fait fondamentale. Elle sera précisée par la suite de différentes façons équivalentes par Alonzo Church et Alan Turing. Mais une chose importante aussi, c'est que depuis les années 30, on a montré que beaucoup de systèmes autres que les théories mathématiques sont assez complexes pour posséder ces propriétés d'incomplétude et d'indécidabilité. C'est le cas des systèmes de coupure et de recollement, ce qu'on appelle les systèmes de tue, qui ressemblent comme des frères à la combinatoire de l'ADN dans les êtres vivants. Le mathématicien russe Yuri Matiasevitch a montré l'indécidabilité de systèmes de coupure et de recollement extrêmement simples, montrant ainsi que la biologie moléculaire est forcément dans cette phénoménologie. Néanmoins, le malentendu du réductionnisme subsiste. On n'a pas pris la mesure des conséquences de cette limitation. Un vaste courant d'écologie réductionniste se perpétue actuellement. On fait comme si le résultat de Gödel ne concernait que les mathématiques et que toutes les autres sciences s'appuyaient sur la physique, elle-même s'appuyant uniquement sur l'expérience. C'est exactement la pensée du programme réductionniste de Hilbert qui se perpétue. Cela permet de proclamer l'innocence, l'innocuité de l'écologie réductionniste, malgré ses travers évidents de sous-estimation du contexte et de négligence du savoir de la nature, dans le but de faire croire à la validité providentielle de l'essai. Je parlais d'empirisme au début de mon propos. C'est une idéologie, elle a ses célébrités. Richard Dawkins, Jennifer Doudna, Partha Dasgupta, par exemple. Je pense que Giuseppe Longo y reviendra. Alors, poursuivons le fil historique. Une rupture très importante eut lieu dans les années 1970. Très en avance par rapport à la prise de conscience générale sur l'environnement, quelques brillants mathématiciens s'engagent intellectuellement pour l'écologie. C'est assez curieux. Nous avons des mathématiciens qui d'un seul coup se jettent dans l'arène publique sur le thème de la destruction de la nature. Ils s'engagent dans un mouvement radical, survivre, appelé ensuite « survivre et vivre », qui porte le cri vers le grand public qu'on ne peut pas continuer comme ça. Avec la dénonciation du scientisme, en particulier par Alexandre Grothendieck, qui parle du scientisme comme d'une religion, la nouvelle église universelle, son texte qui a été largement diffusé, c'est une nouvelle église qui pousse l'impudence à proclamer qu'elle sait mieux que quiconque. Alors pour l'histoire et la naissance du cadre sociopolitique de ce mouvement, je renvoie à l'excellent ouvrage dirigé par Céline Pessy, « Survivre et vivre, critique de la science et naissance de l'écologie ».« Survivre et vivre » est un mouvement très singulier. Cela se passe au début des années 1970. On est vers la fin des Trente Glorieuses, dans la période de rivalité entre les deux blocs d'un point de vue technique, scientifique et militaire. Le mouvement « Survivre et vivre » est antérieur au premier rapport du Club de Rome, antérieur à la crise pétrolière, antérieur à la candidature de René Dumont à la présidentielle en 1974, qui fut la première prise de conscience du grand public en France de l'écologie. Antérieur aussi à la mise en place des marchés financiers à terme qui vont démunir les gouvernements occidentaux de la majeure part de leur pouvoir de gouvernance sur l'environnement. On est juste après mai 68, et dans l'arène politique, les mathématiciens n'ont aucune légitimité. Les prises de position de survivre et vivre sont si extrêmes et outrancières qu'elles n'ont aucune chance de peser dans la balance des forces politiques. La seule explication plausible est que ce petit groupe, essentiellement Alexandre Grothendieck, Claude Chevallet, Pierre Samuel, Roger Godman, Denis Gage et à l'étranger le Britannique Alan Slomson, quelques Canadiens et Américains, que ce petit groupe était absolument convaincu dans les prises de position des idées qu'ils avançaient sur la place publique. Et l'attitude de Grothendieck dans ses prises de position, ainsi que dans ses relations avec le Collège de France, est vraiment faite pour montrer que sa conviction est entière, qu'il est prêt à sacrifier beaucoup pour le prouver, y compris ce qu'il a de plus cher, faire de la recherche. Le mouvement Survivre et Vivre concerne l'écologie, mais, et c'est là une vraie originalité, il s'en prend à la science elle-même. Non pas pour lui opposer la sagesse philosophique, comme on fait les philosophes Husserl, Heidegger ou Habermas, ni pour relativiser la science, comme ont fait par la suite les postmodernes, mais pour montrer l'institution avec ses arguments d'autorité et ses financements industriels. Qu'est-ce qui peut bien donner à des mathématiciens une légitimité pour critiquer la science? La réponse vient du fait que dans ce champ de connaissances, ils ont buté sur les limites. Ils savent qu'on ne fait pas des mathématiques avec des machines. Jamais la science réductionniste ne rendra compte de tout ce qui est, de tout ce qui advient. La crise des fondements des mathématiques des années 1930 est porteuse d'une disruption bien plus profonde que ce qu'ont compris des commentateurs non initiés. Wittgenstein ou Régis Debray, par exemple, et bien d'autres, n'y ont vu qu'une extension du paradoxe du menteur, alors que le point fondamental n'est pas là. Mais que, jusqu'aux années 30, les chercheurs compétents s'attendaient au succès du programme réductionniste de Hilbert. Ils pensaient que des difficultés apparaîtraient peut-être pour des notions abstraites, mais pas pour les nombres entiers. Son échec est la preuve qu'il y a une réalité inaccessible par le mécanique. En ce sens, cet échec est une grande avancée. À cette époque, les liens entre la logique mathématique et la biologie de synthèse ne sont pas explicités. Néanmoins, entre les années 30 et les années 60, les travaux sur les limites de la calculabilité effective, Church, Turing, Post, Klein, etc., se sont considérablement développés. Et il est d'usage d'appeler atomiques les propositions de logique les plus simples avec lesquelles les autres sont composées. De sorte que le dictionnaire dont nous avons parlé est plus ou moins intuitif dans l'esprit des mathématiciens logiciens. Des principaux personnages de cet épisode, on peut dire que Samuel est l'écologiste, Grothendieck est le révolté, Godman est le spécialiste des liens entre l'économie et l'armée, et Claude Chevalet, d'une dizaine d'années plus âgé, ami de Herbrand, est celui qui assume la place des mathématiques dans cette affaire. En 1971, Grothendieck et quelques autres déclarent qu'il est choquant que le colloque de logique qui doit se tenir à Cambridge, en Angleterre, soit partiellement financé par l'OTAN. Un colloque dissident est organisé à Uldum, au Danemark, avec des grands noms parmi les conférenciers. Grothendieck sur les catégories, Dieckmann sur les modèles, Martin Löf sur la théorie de la démonstration. Et le logicien Alan Slomson, un spécialiste des ultra-produits, décrit l'état d'esprit de ces mathématiciens logiciens dans ce colloque dissident, dans un très bel article qui se termine par une citation de Bertrand Russell. Il est de notre pouvoir de faire un monde bon. Et c'est pourquoi, quel que soit le travail et le danger qui nous attendent, nous devons le faire. Écrivait Russell. À mon avis, les mathématiciens dont nous parlons avaient trouvé le moyen d'échapper par le haut à ce marxisme intellectuel omniprésent qui accompagnait le Parti communiste et s'infiltrait partout après mai 68. C'est précisément en récusant le marxisme dans son scientisme, en le replaçant comme un réductionnisme global, ils avaient là un espace libre où ils étaient à l'aise, appuyés sur des convictions solides, et cela les tournait nécessairement vers l'écologie. Grothendieck termine sa conférence au CERN à Genève, où il explique la genèse et les raisons du mouvement « Survivre et vivre » par ces mots. Le problème de la survie pour nous a été, si l'on peut dire, dépassé. Il est devenu le problème de la vie, de la transformation de notre vie dans l'immédiat, de telle façon qu'il s'agisse de modes de vie et de relations humaines qui soient dignes d'être vécus et qui, d'autre part, soient viables à longue échéance et puissent servir de point de départ pour l'établissement de civilisations post-industrielles et de cultures nouvelles. Les prises de position de ces mathématiciens résonnent dans notre actualité comme une vision extraordinairement lucide et clairvoyante. Alors ce courant, je tente de l'expliquer plus à fond aujourd'hui, et la grande leçon de cela, c'est l'importance de l'ignorance en tant que situation éthique. Il s'agit de réhabiliter le fait qu'il y a de l'ignorance et de l'ignorance définitive. Il est clair que Grothendieck, Chevalet et Samuel avaient noté que la science, de temps en temps, achoppe et repart différemment. Mais s'ils se sont engagés de cette façon, c'est, je pense, qu'ils avaient conscience du fait que la nature ne peut pas être plus simple que l'arithmétique. Car au fond, elle contient l'arithmétique. Je vous remercie.